Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ramadan & Co, c'est le deuxième jour de ce mois de Ramadan. Soyez les bienvenus. Vous le savez, nous sommes 30 jours avec vous tous les soirs en direct. Et ce soir, jusqu'à 20h44, heure à laquelle l'imam Abdelali Mamoun fera l'Aden en direct. 20h44. Et c'est la seule radio qui vous le permet. Imam Abdelali, voilà. Venez.
Oui, bonjour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous.
Bah, écoute, je suis profondément, mal à l'aise. Parce que je suis rentré, je n'ai pas dit salam alaikum à mon ami Kim, à mon frère, celui qui m'a manqué depuis des siècles. On dirait que ça fait des siècles que je ne l'ai pas vu.
J'ai dû maigrir parce qu'il ne m'a pas vu.
Voilà, non, mais j'étais tellement avec les Kenza et compagnie et tout.
Vous étiez au téléphone.
Miel d'Orient, je ne sais pas. En plus, téléphone, voilà, il y avait plein de choses qui tombaient en même temps. Et subhanallah, il y a un verset du Coran qui dit Ma ja'alallahu li rajuli min qalbayni fi jawfi. Dieu n'a en aucun cas mis deux cœurs dans la poitrine d'une même personne. C'est-à-dire, tu peux pas être à la fois là et là. Voilà, subhanallah.
Bon, vous avez compris, l'équipe s'est agrandie puisque c'est Kim qui est aux commandes de cette émission et qui nous accompagnera pendant tout le mois de Ramadan.
Je suis super content, moi, en tout cas.
Ah, on a fait chauffer la carte bleue, moi, je vous le dis. Mais
il n'y a rien, il n'y a pas de carte bleue.
J'ai fait chauffer la carte électron, moi.
Non, il n'y a que des bisous et des câlins.
Ah non, c'est fini, c'est interdit, ça. Mais cette émission ne serait pas cette émission sans Maître Serran qui donne le tempo pour la minute du jeune heure. Bonsoir, Maître Serran.
Bonsoir, mon cher Philippe. Maître Serran payé avec des bisous et des câlins, donc manifestement. Donc c'est Kim qui prend tout. Ok, allez, Ramadan,
bon,
jour.
Je t'en donnerai un ou deux. Attends, je t'en ai donné un hier.
Ouais, voilà, c'est vrai.
Je t'ai rien donné encore.
Ouais, d'accord, c'est vrai.
Le gars, il est déjà jaloux.
Je suis un peu jaloux. Bon, allez, ça, on y va. Ramadan, jour 2. Bonsoir, mes amis. Mes amis du Ramadan, évidemment, Maître Serran vous salue, ou devrais-je dire, l'imam Salahan vous salue. J'espère que vous allez bien. Alors, d'aucuns me diront, ouais, mais est-ce qu'on peut aller bien si on mange pas et si on boit pas de la journée? Oh, tu vas vite changer de ton, d'accord? Sinon, Ramadan ou pas, moi, je te chiffonne. Vous aurez remarqué, mon cher Philippe, que Maître Serran est un véritable acteur. Je peux jouer tous les rôles et même dialoguer avec moi-même. Pour ma part, durant le Ramadan, en règle générale, je me sens bien, je me sens apaisé. Et crois-moi, c'est un luxe que de se sentir apaisé en cette période quelque peu troublée. Bon, c'est pas certain, je tiens le même discours dans 15 jours. Là, je me la raconte, ça fait que 2 jours de Ramadan. Pour l'instant, mon kiolchi est plein, alhamdoulilah, on a des réserves. D'ailleurs, à propos de kiolchi, hier, mon cher Philippe, pendant 3 minutes, vous n'avez cessé d'embêter l'imam Abdelali avec la sourate Al-Fil, sourate de l'éléphant, en disant c'est la sourate Mamoun. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi s'en prendre au physique? On a dit qu'on le ferait.
Ah, c'est vrai.
Ouais. De Baqara, moi.
Non. Il a dit, il a dit sourate Al-Fil, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand vous moquez du physique de l'imam. D'ailleurs, justement, à propos de Kulch, vous avez des news, mon cher Philippe, de l'intéressé. Alors oui, je sais, nos auditeurs peuvent pas comprendre. Il y a que vous, moi, et l'intéressé qui se reconnaîtra peut-être. Voilà. Mais je ne cite pas. Je dirais, allez, j'arrête avec les gros Kulch. Je ne dirai plus rien. Évoquons plutôt ce qui s'est dit hier. Mais au préalable, en fait, je constate que mon micro, contrairement au vôtre et à celui de l'imam Abdelali, ne comporte toujours pas de bonnette. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Alors, pour nos auditeurs, il faut expliquer qu'une bonnette, c'est une sorte de grosse couille, là, qu'on met sur le micro. L'image est bonne, c'est bien ça.
Pocket.
Ouais, voilà, ouais. Queen in the pocket, donc c'est bien ça. Bon, mais c'est pas grave. Je constate que vous foutez de savoir si Maître Serran risque d'être contaminé ou pas. L'essentiel, c'est que tous les deux, vous ne preniez aucun risque, mes amis, aucun risque. Donc, hier, notre ami l'imam a donné son numéro à l'antenne, mais avec des consignes, frère, très strictes. Le type, presque énervé. Le gars, il donne son numéro. Je donne mon numéro, mais vous m'appelez pas ce soir. Oh, quand même, normal. Alors, on peut comprendre. On peut comprendre. Si c'est pour être dérangé, pour répondre à des questions balourdes, tiens, comme la question de Yasmine qui vous a demandé, mon cher Abdelali, si elle devait faire le Ramadan alors qu'elle a des examens médicaux. Vous l'avez répondu très justement. C'est le médecin qui doit répondre à cette question. Voilà. Éventuellement même un médecin musulman.
Merci, l'imam.
Je vais finir par croire que de nombreuses personnes prennent des rendez-vous chez le médecin exclusivement durant le mois du Ramadan, juste pour trouver des excuses et ne pas le faire. Alors, tu fais le Ramadan? Non, là, je peux pas aujourd'hui. Demain et après-demain non plus. J'ai plein de rendez-vous médicaux en ce moment. Non, je peux pas. Mais si tu prenais tes rendez-vous avant le ramadan ou après le ramadan. Hein, femme de mauvaise foi, allez Yasmine, si tu m'écoutes, arrête tes ruses, fais ton ramadan, le Tout-Puissant te regarde. Ah oui, vous avez vu mon cher Philippe, la mauvaise nouvelle du jour, moi ça m'a tué. Les avions en provenance du Brésil sont suspendus.
Ah non,
ah, ça m'a
on n'a dit pas le Brésil.
Non mais ça m'a fait chier, puisqu'on devait réceptionner tous les deux aujourd'hui à 20h, 4 jolies brésiliennes, spécial ramadan. Ce sera pas possible. Franchement, ce Covid me fait chier. Pas de brésiliennes cette année, mon cher Philippe, pas de petite danse, rien du tout. Walou, je vous sens contrarié, mais... Avant de vous laisser, il conviendrait quand même de demander à vos invités de cesser de prendre nos auditeurs pour des débiles. Le responsable de la faculté des sciences islamiques de Paris, que vous avez reçu hier, a déclaré « Si vous souhaitez aller sur le site de la faculté des sciences islamiques de Paris, tapez FSIP. » Bon, jusque-là, normal. Et il rajoute « F pour faculté, S pour science. » Oh ouais, frère, d'accord, on a compris. I pour islamique et P pour Paris. Alors oui, c'est Ramadan, mais nous, on a encore toutes nos facultés. Allez, sahaf tolkom. À demain, Inch'Allah.
Maître Serhan, la minute du jeûneur, qui en fait 4 aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au standard de Beurre FM. Dès maintenant, 01 53 48 3000 en direct, bien sûr. Hein. Priorité à vos appels, 01 53 48 3000 si vous voulez poser votre question à l'imam Abdelali Mamoun.
Bonjour, donc rebonsoir Philippe. Je souhaitais moi aussi te poser une question. Est-ce que tu sais, Philippe, quel est l'endroit où se trouve la plus ancienne mosquée actuellement sur le territoire français ? Je dis bien tous les territoires français.
Dans le sud de la France.
Ah ouais, mais faut Alsace, dire. Moi, je dirais.
Hein ?
Qu'est-ce qu'il dit, Manu ?
Alsace.
Non.
En Alsace.
Non, moi je dirais dans le sud de la France. Moi je dirais plutôt.
Alors, Maître Serhan, vous auriez un avis ? Où se trouve la plus ancienne mosquée de France ?
Je pensais.
Du côté d'Istres.
Paris, mais non, alors manifestement c'est pas ça.
Alors.
Mayotte ou quelque chose comme ça, non ?
Bravo, bonne réponse. Ouais. Je pourrais dire que c'est une bonne réponse. Mais il y a malheureusement encore plus ancien que celle de Mayotte. Alors déjà, pour donner une date pour celle de Mayotte, c'est 1588, c'est du 16e siècle.
Ah ouais.
Donc tu vois un petit peu, à Mayotte, c'est là la toute première mosquée. C'est à l'arrivée des, on va dire, des prédicateurs, de ceux qui ont propagé l'islam sur toute la côte est de l'Afrique, Mozambique, Tanzanie, Zanzibar, l'île de la Réunion, Madagascar, toute cette région-là qu'on appelle l'est, le Swahili, là où ils parlent le Swahili, hein, le langage Swahiliya en arabe, qui est un mélange d'arabe et de dialecte africain, sont bien sûr des territoires qui ont été depuis très très longtemps islamisés, et surtout au 15e et 16e siècle, avec l'avènement carrément des conquêtes et des rois musulmans arabes qui étaient venus s'installer, du sultanat d'Oman, pour s'installer, et puis bien sûr qui ont été délogés par les Portugais dans un premier temps, et ensuite par les Français.
Moi je pensais Fréjus, je sais pas pourquoi.
Alors Fréjus, effectivement, il y a une mosquée qui est aujourd'hui un musée, qui est une
qui est superbe. Alors là, je veux dire.
Oui, effectivement, c'est une mosquée qui est une réplique
d'une mosquée africaine,
d'une mosquée malienne, voilà. Plus précisément. Et elle avait été mise en place et élaborée. Déjà, c'est pas avec les mêmes matériaux, mais ça a la même couleur que les matériaux d'Afrique.
Ça ressemble, c'est orangé.
Voilà, plus profond. Oui, ouais. C'est plus foncé, voilà. C'est un orangé, voilà, c'est ça. Et à Fréjus, elle a été construite en 1908.
Ah.
Mais il y a plus ancien que 1908. Vous avez la mosquée de l'île de la Réunion, à Saint-Denis de la Réunion. Cette mosquée a été construite en 1905. Donc déjà, c'est plus ancien que celle de Fréjus.
Ouais.
Et celle qui bat tous les records... Attends, alors on va faire le compte à rebours. Tu sais comment on fait, là ? Tapage de tambour.
Je fais bien, là,
la plus ancienne, c'est une mosquée qui a été construite au, écoutez bien, 13e siècle, en 1200 et quelques.
Ah oui ?
Oui, ça s'appelle la mosquée de Buzancy. Bon, le défaut de cette mosquée, c'est qu'elle n'existe plus. Mais elle a existé, on a des photos. Elle a été détruite au 19e siècle. Mais on a encore des photos, puisqu'elle a été prise en photo. Et de ce qui reste de cette mosquée, c'est la rue. La rue à Buzancy. Alors, Buzancy, c'est une ville qui se trouve dans les Ardennes françaises, à l'est de Reims. Et c'était un aristocrate qui avait, parce qu'il avait été libéré par le sultan Saladin, avait promis au sultan Saladin de nommer tous ses enfants Saladin. Donc il a appelé tous ses enfants Saladin quelque chose, mais ils devaient s'appeler Saladin. comment on dit, les armoiries là.
Oui, les armoiries.
Les armoiries.
Ouais.
Eh bien, il a ajouté le croissant musulman et il a fait construire une première mosquée au XIIIe siècle à Buzancy. Et aujourd'hui, il ne reste que la rue Mahomet. Il y a une rue qui s'appelle jusqu'à maintenant. Tu cherches, tu regardes sur internet, rue Mahomet à Buzancy, bah tu vas voir le Google Maps, vous trichez
un peu parce que la mosquée a existé,
mais elle n'existe plus.
Mais elle existe
plus. Celle qui existe encore, c'est celle de Mayotte, qui a été construite en 1588.
Donc j'ai gagné. Bonne réponse de Maître Serra.
Maintenant je vous laisse.
Vous gagnez et vous partez.
Oui. Je précise que Mayotte est le département français et la région française où il y a le plus grand nombre de musulmans. Puisque c'est 97% de la population qui est musulmane, 3% sont chrétiens, catholiques notamment, c'est sur 260 000 habitants. Donc on n'est pas loin de 250 000 musulmans. Donc c'est bien entendu aujourd'hui le département musulman où il y a le plus de musulmans en France.
Alors, Imam Abdelali, vous avez Soumia qui nous appelle au 01 53 48 3000 et qui a une question. Bienvenue Soumia et bon Ramadan.
Oui, bonjour, salam alaikum à tous.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
J'ai une question concernant la sadaqa.
Oui.
Donc moi, chaque année, je donne ma zakat, c'est-à-dire 2,5% de ce que j'ai, je retire les intérêts. Et en fait, j'ai pas trop compris du coup la sadaqa, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est en plus? Est-ce que c'est au bon vouloir de chacun?
Voilà, c'est bon, vous avez terminé votre question?
Oui.
Voilà. Alors, vous avez utilisé le terme sadaqa. Le mot sadaqa est un terme générique qui veut dire une obole ou une aumône. Quand on fait une aumône, on donne de l'argent. C'est-à-dire, on fait un acte d'adoration en utilisant son argent que l'on va donner à un pauvre, un nécessiteux, un misérable. Dieu dit dans le Coran, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Les sadaqat sont voués doit être versés aux misérables et aux pauvres. Voilà ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Donc le mot sadaqa est un terme générique. Dans ce terme-là, sadaqat, il y a plusieurs domaines. D'abord, il y a la zakat, qui est la sadaqa obligatoire, celle que l'on doit s'acquitter tous les ans à hauteur de 2,5% de son argent que l'on a thésaurisé, qu'on n'a pas consommé pendant un an, et dont le seuil minimum, c'est-à-dire le nisab, a été atteint, et qui est de 85 grammes d'or. Donc actuellement, aujourd'hui, à peu près à 4000 euros. Donc si vous avez 4000 euros et plus, et que vous avez laissé dormir cet argent pendant un an, vous êtes donc assujetti à la zakat, zakatul mal, qui est une sadaqat parmi les sadaqat. D'accord? Mais le prophète a effectivement élargi le sens de ce mot sadaqat en disant, par exemple, enlever un détritus qui gênerait les passants sur le chemin est une sadaqa. Sourire à ton frère ou à ta sœur quand tu le rencontres est une sadaqa. Mettre la bouchée de pain dans la bouche de ton enfant est une sadaqa. Aider ton frère à porter ses affaires sur sa mule. Bon, à l'époque, c'était des mules ou des chameaux, etc. Aujourd'hui, même dans sa voiture, aider quelqu'un à prendre son sac de commission, qu'il soit musulman ou pas, un voisin par exemple qui monte dans l'escalier et qui n'arrive pas et que vous venez l'aider, vous lui ouvrez la porte pour qu'il passe, etc. Tout ça, ce sont des sadaqat. Le prophète va même encore plus loin quand il parle de sadaqat, puisqu'il dit que même les évocations, ala wa inna fi kulli tasbihatin sadaqa wa fi kulli takbiratin sadaqa, quand vous dites subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar, tout cela constitue des sadaqat. Alors, justement, c'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète, parce que les pauvres sont venus voir le prophète, on dit « Ya Rasulallah, ô envoyé de Dieu ». Les riches, eux, ont un avantage sur nous, parce que nous jeûnons tous ensemble avec les riches, nous prions avec les riches, mais nous n'avons pas les moyens de faire des sadaqat comme eux peuvent le faire, parce que nous sommes pauvres et eux sont riches. Et là, le prophète leur a dit, pour les soulager, pour les consoler, vous avez d'autres manières de verser ou de faire don de vous-même en souriant, en enlevant un détritus du chemin, en donnant, par exemple, en indiquant l'itinéraire à quelqu'un qui s'est égaré. Tout cela, et que ça soit un musulman ou pas, hein, vous donnez à boire à un chien, un animal, à un chat, à une bête. Tout ça, ce sont des sadaqat à partir du moment où vous savez au fond de vous-même que c'est un acte de bonté. Voilà.
Voilà, Soumia. Merci pour votre question.
Je vous en prie.
Bon, Ramadan et d'autres appels dans un instant. Si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, c'est très simple. Vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM. 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Qui nous a rejoint, Mohamed Bajrafil, docteur en linguistique de l'université Paris 7, professeur de lettres et d'histoire. Il est notre invité. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bonsoir, Cheikh Mohamed. Ne pas oublier que c'est un grand imam, un grand jurisconsulte, un grand traditionniste, mais surtout un excellent psalmodieur.
Alors, j'ai pas dit imam parce qu'il a, renoncé à l'imamat il y a quelques temps.
J'ai dit cheikh. Cheikh. Voilà. Maintenant, imam, pour moi, c'est pas celui qui est dans une mosquée qui est un imam. C'est celui qui est devant la communauté musulmane pour leur donner les bons conseils. Et là-dessus, il regarde le statut d'imam à mes yeux. Ça, c'est clair. Il y a pas photo. En tout cas, c'est l'un des le plus compétent pour assumer cette fonction. Ça, c'est sûr. En France, il y en a pas beaucoup qui sont à son niveau. Cheikh Mohamed, on les compte dans les doigts de la main, qui ont le niveau de Cheikh Mohamed Bajrafil. Voilà, marhaba avec Cheikh Mohamed, ahlan wa sahlan.
Ahlan wa sahlan, comme Cheikh, tout ça, je suis votre petit frère, votre frère et votre...
Alors je précise que Cheikh Mohamed est d'origine comorienne, donc il fait honneur à la grande communauté musulmane comorienne de France. Et que, mashallah, il a étudié l'islam et la science islamique dans son pays d'origine, auprès de très grands savants de Comores, qui est un pays de référence en science islamique là-bas aussi, et de rite chafi'ite, c'est bien ça, hein, Cheikh ?
Oui, c'est bien cela, oui.
Mashallah, Allahumma barak. Et donc, on parlait tout à l'heure, on parlait de Mayotte, on parlait de l'île de la Réunion, c'est pas loin de chez vous, ça, n'est-ce pas ? On parlait la plus grande ancienne mosquée de France. On disait qu'elle était à Mayotte. Elle avait été construite en l'an 1588. Donc c'était au 16e siècle. Qu'elle était la plus ancienne mosquée encore sur pied. Il y a eu la mosquée de Buzancy, mais qui a été détruite au 19e siècle. Mais voilà, un pays qui est tout près de chez vous, un département français qui est tout près de chez vous, qui s'appelle Mayotte. Et donc voilà, vous faites honneur à cette communauté Swahiliya, puisque c'est un petit peu cette grande tribu des musulmans d'Afrique de l'Est qu'on appelle les Swahili, c'est ça?
Ah, Swahili, c'est de l'arabe Swahili.
Tu veux dire la côte?
Ce sont les côtes est africaines qui sont, il est vrai, un lieu de métissage depuis plusieurs millénaires. Un écrit découvert il y a à peu près une vingtaine d'années fait mention de la présence des Arabes dans la région bien avant la naissance du Christ, ce qui veut dire que ces peuples-là sont initialement des peuples métissés, en tout cas les côtes est-africaines. Il y a à Madagascar des Austronésiens, des gens venant d'Indonésie. Aux Comores, on trouve des Arabes mélangés avec des Est-Africains. Donc bon, ouais.
Et des gens de l'Inde aussi, Inch'Allah.
Barakallahu fik. Des Indiens également, ouais. Voire des Portugais. C'est un patchwork de peuples, un melting pot, comme on dit
Inch'Allah. Alors, on va tout de suite vous écouter réciter le Coran, parce que comme dit le mois Ramadan, c'est le mois du Coran, donc on met à l'honneur pendant tout ce mois un imam qui nous récite des versets du Coran et puis un petit peu qui les explique pour un petit peu donner une petite exhortation à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sur Beurre FM. Marhaba bik, tfaddal ya Cheikh, nasma'ouk, on t'écoute.
Allah yakhlimak, shukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة و ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى فعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم.
ما شاء الله ما شاء الله. Un son de rossignol qui vient de nous toucher jusqu'au plus profond du cœur. Par cette magnifique récitation que vient de nous interpréter Cheikh Mohamed Bajrafil, un des plus grands imams de France dans tous les domaines, y compris la récitation du Coran. Il n'y en a pas beaucoup, même dans ce domaine-là, qui ont la qualité de sa récitation, que ce soit même le respect des règles de psalmodie, Ahkam et Tajwid, Saut, Al-Maqam, tout y est. Rien n'est obligé, n'oublié. Donc, Cheikh Chouf, vu que là, il y a une courte pause qui nous attend, je te propose de nous faire ta petite exhortation, mais je peux te laisser quand même pendant une minute, ou non, même pas.
Non, ce qu'on va faire, on va marquer la pause, et comme ça, vous aurez plus de temps.
Juste après, on va te laisser le temps de développer ce que tu voulais raconter dans cette sourate Al-Qasas, la sourate Les Histoires, qui raconte justement l'histoire de Moïse. À sa naissance. Et salam alaykoum.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et nous sommes au cœur de la sourate 28, Les Histoires, avec le professeur Mohamed Bajrafil.
Al-Qasas.
Voilà, une sourate dont on parle assez peu finalement, voilà, et qui est très peu récitée, professeur.
Et qui raconte l'histoire de Moïse dans son intégralité pratiquement.
Alors, c'est vrai que c'est un beau chapitre du Coran, le chapitre 28, comme vous le dites, et qui a la particularité de raconter les récits de bien de prophètes, dont celui de Moussa alayhi salam, Moïse, qui occupe une bonne partie, pour ne pas dire la quasi-totalité du récit.
De la sourate, tu veux dire de la sourate.
De la sourate et du coup des récits, puisque c'est un chapitre appelé Qasas, qui est le pluriel de Qissa, en arabe voulant dire quelque chose qui se continue, que l'on dit longuement.
Donc, que l'on raconte aussi, peut-être.
Que l'on raconte, mais qui est faite de péripéties, comme on dit. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelait Vladimir Prop, qui est le spécialiste mondial des contes, et qui a créé ce qu'on appelle le schéma narratif.
Un prof de français qui parle, là. C'est bien l'imam, il y a le prof de français. Inch'Allah. Dans le Mahalif, si c'est intéressant.
Donc en fait tout récit, pour faire simple, il y a deux bonhommes, hein. Il y a Vladimir Prop pour le schéma narratif, un monsieur qui s'appelait Grémas pour ce qu'on appelle le schéma actantiel. En un mot, le schéma narratif, c'est que tout récit est constitué d'étapes. Alors la première étape est l'étape de ce qu'on appelle la situation initiale. Et c'est là où en fait on fait la présentation des personnages et des lieux. Et nous avons un beau récit ici, parce que justement, on nous parle d'entrée de jeu des personnages, on sait de qui il va être question. Il va être question de Pharaon, de Haman, ainsi que de leurs acolytes, mais également de la mère de Moïse, alors dont les exégètes rapportent des noms ici et là, mais qui ne font pas l'unanimité. Donc c'est ce qu'on appelle la situation initiale, et on apprend la naissance d'un enfant. Sauf qu'il y a quelque chose de très beau dans l'introduction, puisque Dieu dit, eh bien, nous allons sauver une communauté, en l'occurrence la communauté d'Israël, les enfants d'Israël, Israël étant Yaakoub, alayhi salam, un des noms de Jacob, par un enfant.
Et donc c'est l'ancêtre de Moïse, justement, Yaakoub, puisque c'est le peuple d'Israël qui sont tous les descendants exactement. D'Israël, qui est Yaakoub, alayhi salam.
Exactement, de Yaakoub, alayhi salam. Et le récit commence donc par la présentation des dieux et des personnages. On sait quels sont les acteurs de ce récit. Et il se trouve que le début du récit est occupé par une femme, qui est la mère de Moïse, vous disais-je, dont le nom n'est pas, ne fait pas l'unanimité quant à ce qu'en disent les
historiens.
Ensuite, on nous dit que finalement, ce qui ressort dans ce que je vous ai récité, on nous dit, mais avant d'arriver à là, je finis les cinq étapes, donc, ou plutôt les différentes étapes d'un récit. Nous avons donc la situation initiale avec la présentation des personnages. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'événement perturbateur. C'est quelque chose, un événement qui vient troubler la quiétude dans laquelle se trouvent les personnages. Et à partir de là, commence ce qu'on appelle des péripéties, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui se succèdent les unes aux autres dans le but de restaurer, n'est-ce pas, la situation initiale. Et au fond, alors on n'a pas eu le temps d'arriver à cela, puisque la situation l'événement perturbateur, c'est quand il y a un pugilat, ou plutôt une opposition qui met aux prises un quelqu'un de la tribu de Moussa alayhi salam et quelqu'un plutôt de celle de
Pharaon.
Et que Moïse intervient pour les séparer, mais il était tellement fort que sans faire exprès, il donne un coup qui a été fatal à la personne du côté adverse.
Et du côté Pharaon, du côté Pharaon. Favokazahou Moussa Fakhabarli. Cher, mais dans ce récit-là, oui. Vous avez parlé d'une femme qui est la mère de Pharaon, qui reçoit la révélation, qui reçoit une révélation.
La mère de Moïse.
J'ai dit quoi, moi ?
La mère de Moïse.
La mère de Moïse reçoit la révélation. Haïna ila ummi Moussa. Pourquoi reçoit-elle cette révélation ? C'est vrai parce que Pharaon et Haman et ses acolytes sont en erreur, sont dans la faute, khatein, parce qu'ils décident de tuer tous les enfants garçons d'Israël. C'est ça la faute qu'ils ont commise.
Oui, oui.
Le protéger, Dieu dit à la mère de Pharaon, jette-le dans le Nil, c'est ça.
À la mère de Moïse, en effet. Alors, c'est très beau ce que vous dites, parce que Al-Qurtubi, pour la petite anecdote, j'avais pas pensé, mais comme vous tendez la perche, je le dis à nos auditeurs.
Oui, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, cher Mohamed.
Voilà. Alors, Al-Qurtubi considère qu'il y a, il y aurait deux femmes prophétesses. La mère de Moussa et Maryam
ibn Imran, oui, bien sûr, elle reçoit l'ange Gabriel.
C'est pas l'avis de la majorité des théologiens musulmans, mais ce doit être connu, notamment dans cette période où on parle de l'islam sans en connaître grand chose.
Les autres considèrent qu'il y en a qu'une, c'est ça?
Non, ils disent qu'il n'y en a pas. Ils disent qu'une femme ne peut pas être prophète.
D'accord.
Voilà, c'est encore un héritage patriarcal qui est interdit aux femmes. Je suis d'accord avec Mohamed là-dessus.
Sachez juste que ça existe pour nos auditeurs, j'allais dire téléspectateurs, mais pour nos auditeurs. Cet avis, même s'il est marginal, il existe. L'imam Al-Qurtubi.
Et c'est l'école Zahiri, je crois. C'est aussi l'école Zahiri.
Non, c'est Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, c'est l'exégète célèbre.
Celui de Cordoue, le grand savant de Cordoue.
Voilà, exactement. Et il s'appuie là-dessus pour émettre cette hypothèse. Donc, continuons et disons que on dit à cette femme six choses dans un verset. Que va considérer Zamakhshari, mais pas seulement, et Tahir ibn Ashur le rapporte dans son exégèse de Tahrir wa Tanwir comme la preuve de l'éloquence du Coran, El Balagh, Parce que, en fait, rapportant les propos d'une dame, qui, enfin, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaye de...
Oui, parce que là, il faut vraiment conclure, parce qu'on a encore le professeur Kamel Chkad qui nous attend, et qui est avec nous, et qui est déjà presque à l'antenne avec nous.
Ok, alors, dedans, vous avez deux ordres, qui est que, eh bien, il faut... Enfin, il y a deux informations. Il va rifti alayni, si tu as peur... pour lui, eh bien, vas-y, quand tu as peur d'elle, eh bien, il va rester aller, il faut le qui il fait. Et là, il y a justement deux informations qui sont Ouhaina ila Umm Moussa an arbi'ihi. Donc, on lui révèle cela, on lui dit de l'allaiter, et surtout, on lui dit si tu as peur. Et là, viennent les ordres. Eh bien, il faut le qui il fait. On lui dit de la rivière. Ensuite, on lui donne deux interdictions. Eh bien, on lui dit la tachafi, n'aie pas peur, voilà tahzani, et ne
sois pas triste, ne sois pas affligé.
Inna radduhu ilayki, on va te le retourner,
et
nous serons de lui un des messagers. Malheureusement, enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps est en cours. Ouais. Je m'arrête là. Je vous remercie.
Allah jazakallah. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, pour cette magnifique lecture, Cheikh Mohamed. Jazakallah khairan. Mais c'est vrai que le temps reste limité. En tout cas, j'espère que tu accepteras de revenir nous voir et pourquoi pas même sur le plateau pour avoir un meilleur son, parce qu'effectivement, si c'est sur le plateau, le son est encore meilleur, c'est sûr.
Allah
Ibn Fik. Merci beaucoup à toi. Je te fais un gros bisou, frère.
Et on attend un tour comorien, professeur. Vous nous l'avez promis, donc on attend.
Ouais. T'inquiète pas. Je l'invite. S'il veut venir à la radio, il est mon invité. Je l'invite.
Je ne sais pas faire à manger, mais bon, je suis bon mangeur, mais pas.
C'est bon, ça me convient. Moi, ça me convient. Marhababik. Et Cheikh, le jour où tu veux venir à la radio, tu es le bienvenu. Pendant ce mois béni du Ramadan, on essaiera de voir ça, Inch'Allah, en antenne. Plus tard, Inch'Allah, pour voir si tu ne peux pas venir. Parce que le mieux, c'est d'avoir effectivement Mohamed en ligne directement sur le plateau. Voilà, on s'arrête là. Hafidhakallah, Cheikhna. Barakallah, fik. Ila liqa. À bientôt, Inch'Allah.
Merci, professeur. Kamel Chekat nous a rejoint. Bonsoir, professeur Kamel.
Salam alaykoum.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban, Cheikhna. Ma'adira, ta'akharna alayk shwaya. Voilà, que
non, non, nous c'était très bien. Et puis, l'avis qualifié de marginal, Ra'yun Shad, de l'imam al-Qurtubi, concernant la prophétie de
Maryam et de
Marie, alayhi salam, et de
Assia.
Non, Assia, c'était la femme de Pharaon. La mère de Moïse, non, on n'a pas le nom.
Ah là, oui, c'est vrai, c'est pas la même Moïse. Chose. Oui, en effet.
Pas du tout la même chose.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a un avis qui est considéré comme marginal, mais on n'a jamais entendu quelqu'un, un grand nom de faisant partie des exégètes de l'islam, mais dire de l'imam al-Qurtubi, contrairement à ce qui
s'est
fait actuellement.
C'est une référence.
Oui. Alors, nous sommes toujours avec l'ijtihad et à l'époque du messager de Dieu, alayhi salatu salam. Nous avons une anecdote qui est connue pratiquement de tout le monde. C'est un homme qui était dans un état d'impureté majeure, Janaba, et qui va demander à des gens qui étaient avec lui, vu qu'il avait une blessure à la tête, s'il lui était possible de ne pas procéder à une lotion, à un bain rituel, rosle. Et les autres vont lui dire non, tu n'as pas d'autre choix que de procéder à un bain rituel, et après justement ce bain, l'homme est mort apparemment, du moins selon les sources que nous avons, d'une septicémie. Et au prophète de dire ils l'ont tué, que Dieu les tue. Qataluhu qatalahumullah. Nous avons dans
Halla sa'alu, il y a justement la suite, c'est Halla sa'alu.
Oui, n'aurait-il pas, ça, oui, ça, n'aurait-il pas.
Ça me rappelle une émission dans une chaîne algérienne.
Oui, Halla sa'alu.
Halla sa'alu.
Une émission de fatawa.
De fatawa. Donc,
en tout cas, ils auraient dû justement aller chercher la réponse chez des gens qui étaient plus qualifiés. Attention, quand nous parlons d'ijtihad, ça peut toucher les choses les plus minimes, mais l'ijtihad intervient généralement pour faciliter la vie et l'adoration de Dieu. Et nous avons le Bukhari, qui nous rapporte qu'un homme est venu voir Omar ibn Khattab radiallahu anhu et qui lui a dit je suis dans un état d'impureté majeure. Et là, Omar ibn Yasir radiallahu anhu va dire à Omar ibn Khattab, tu te souviens lorsque nous étions tous les deux en voyage et que nous n'avions pas trouvé d'eau, et toi tu n'as pas fait de prière, tu n'as pas voulu prier, alors que moi, parce que il y avait encore le verset des ablutions sèches, Taïmoum était déjà révélé, il a dit, tandis que moi je me suis roulé dans la terre. Parce que le verset dit, Fatayma Moussaïdan Tayyiban, c'est-à-dire prenez, procéder à des ablutions sèches en utilisant la terre.
Alors, juste pour que les éditeurs comprennent, pourquoi il s'est roulé par terre? Parce que, pensant que quand on parle de Rossel, il faut laver l'intégralité du corps, il s'est dit qu'il fallait.
Tayyiman,
c'est la toile sèche, il faut faire passer la terre sur tout le corps, alors que non, il n'y a pas besoin.
Corps.
Ça n'est pas nécessaire.
Et quand il a dit, فَلَمَّا دَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ قَالْ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا, quand il a raconté ce qui s'était passé au messager de Dieu,
sallallahu alayhi wa sallam,
il a dit, non, tu aurais dû juste donc frapper, فَدَرَبَ النَّبِيُّ بِكَفَيْهِ الْأَرْضِ, tu aurais dû juste frapper la terre comme ça avec la main. Et le prophète, il a posé les mains sur terre, ensuite il a soufflé sur ses mains pour enlever la poussière, et puis il a passé ses mains sur le visage et au niveau des mains.
Et sur les mains. C'est la main jusqu'au poignet.
Jusqu'au poignet. Donc Omar ibn Yasir a procédé à un ijtihad, qu'on le veuille ou non. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, ne dissuadait jamais ses compagnons de faire usage de leur raison, d'essayer de trouver les solutions les plus faciles pour eux. Et même que dans certaines situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réglait la chose avec une pointe d'humour. C'est le cas de Adi ibn Hatim, quand le verset du jeûne a été, on va dire, réaménagé. C'est-à-dire, au début, les gens jeûnaient toute la journée, c'est-à-dire depuis le moment où il se couchait ou bien à partir de Salat l'Isha jusqu'au crépuscule. Ensuite, ils vont commencer à jeûner comme nous le faisons maintenant. Et le verset disait « وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ » Donc, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc
du fil noir de la nuit.
De la nuit ou de l'aube. مِنَ الْفَجْرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ.
مِنَ الْفَجْرِ. Et Adi ibn Hatim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé sous son oreiller deux fils, l'un noir et l'autre blanc. Et il disait, je mangeais jusqu'à ce que la lueur du jour me permette de distinguer les deux couleurs. Et à ce moment-là, je m'arrêtais. Et quand il a raconté cela au messager de Dieu, il a dit, je mets deux fils sous mon oreiller. Et le messager de Dieu, pour lui signifier qu'il était en tort et que cela signifiait qu'il fallait scruter l'horizon pour essayer de voir cette ligne médiane qui distingue le jour de la nuit, قال إن وسادك لا عريض, ton oreiller est bien large, Adi ibn Hatim. Parce que là, au lieu de regarder, de scruter l'horizon, c'est avec ton oreiller que tu as bouché carrément l'horizon. Donc c'était vraiment avec humour que le messager de Dieu a fait cela. Il ne l'a nullement réprimandé, molesté, injurié, comme le font certains à l'heure actuelle. Ceci pour vous dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'ijtihad de la part des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque même de la révélation, sans pour autant que par moment, il n'ait eu besoin d'aller le consulter sur certaines affaires. Ce n'est qu'après coup que le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, rectifier le tir. Voilà donc pour aujourd'hui. Donc demain, inchallah, nous allons nous intéresser à une nouvelle anecdote. Et d'ici là, je vous dis salam alaykoum et sahab turkoum. Allez.
On a un moment pour ajouter un petit truc, Philippe.
Si vous voulez, Imam Abdelali.
Je voulais juste préciser que ce personnage qui a été pris comme exemple par le maître et professeur Kamel Chikat s'appelle Adi ibn Hatim, dont le père était connu pour son immense générosité. Et son fils l'a suivi dans sa tradition, la tradition de son père qui était à l'époque anté-islamique, donc à l'époque de la Jahiliya. Et Hassan ibn Thabit dit à son sujet « Iqtada Adiyun abahu fil karam wa man yushabih abahu fama zalam ». Voilà.
Oui.
Une petite à condition
que le père agisse bien. Attention.
Bah, le père, il n'était pas encore musulman. Il n'a jamais connu l'islam.
Oui.
Hatim al-Ta'i est connu pour sa grande générosité dans le monde.
Oui. Très bien. Allez, merci donc pour de nous avoir prêté attention.
Merci de nous avoir éclairé, professeur. On vous retrouve demain
20h.
Ramadan & Co. revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Alors, notez que tout à l'heure, un auditeur VIP terminera la journée avec nous et que l'auditeur VIP gagnera un coffret de parfum, Maïssa Parfum, et un parfum de linge, Imam Abdelali, d'une valeur de 250 euros.
Ah ouais,
voilà, offert par Maïssa Parfum. Vous avez toutes les informations sur maïssaparfum.com. Mais là, il faudra nous appeler au moment où on vous donnera le top tout à l'heure,
donc,
puisqu'on terminera la journée avec vous.
C'est un grand acte de générosité de la part de ce sponsor. Donc c'est Beurre FM derrière, finalement.
Maïssa Parfum.
Maïssa Parfum.
Bien, tiens, en parlant de générosité, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Imam Abdelali, nous donner votre numéro de téléphone?
Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 29 25 35 00. Bien entendu, il ne faut pas m'appeler maintenant, il faut attendre demain matin entre 10h et 14h. Voilà.
Vous ne serez pas levé?
Si, 10h, ça va, je suis levé.
Ça va.
10h, je suis debout. Quand même. Mais on va dire, à 10h, je commence à répondre.
À 10h, il commence à faire sa gym.
Voilà, t'as tout
compris.
Tu penses,
il fait sa gym, il répond au téléphone, tu sais. Voilà. Il fait sa gym, téléphonique.
Non, mais je fais des choses en même temps. Je réponds, en même temps, je fais ce que j'ai à faire.
Le jardin. Vous êtes sur votre terrasse.
Exact, t'as tout compris, Philippe.
Bien. Tout à l'heure, en parlant de faire des choses, à 20h44, ce sera l'ADN en direct, puisque tous les soirs, l'imam Abdelali Mamoun vous propose de faire cet ADN en direct. Je voulais qu'on écoute une chanson, si vous êtes d'accord, imam Abdelali.
Ah oui, je veux bien.
Voilà.
C'est une chanson sur le Coran et qui parle de la grande miséricorde de Dieu, en tant que le tout miséricorde.
Une belle chanson de Ramadan.
Ar-Rahman.
Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an.
صدري قرآن املأ قلبي قرآن.
Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran.
FM, 19h-21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Alors je rappelle que ce soir, à partir de 22h, c'est l'Aftour. L'Aftour, c'est une émission de spiritualité où vous retrouverez l'imam Abdelali Mamoun, proposé par Yassine Ilmi, en partenariat avec Saphir News.
Oui, Saphir News, effectivement, ce soir, nous sommes en direct de 10h à 11h sur le compte de Facebook Beurre FM et Saphir News et mon imam aussi, donc c'est trois comptes Facebook dans lesquels vous pouvez nous rejoindre, Inch'Allah, pour suivre tout un panel de rubriques et de chroniques magnifiques dans lesquelles vous pourrez vivre on va dire un moment beaucoup plus intense de ce mois béni du Ramadan, Inch'Allah.
Voilà, et vous découvrirez un nouveau pays. Je rappelle que l'auditeur VIP qui sera avec nous et qui terminera la journée avec nous remportera un coffret de parfum Maïssa Parfum d'une valeur de 250 €. Un coffret de parfum et un parfum de linge. Restez avec nous, vous réagirez au top tout à l'heure.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h-21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, imam Abdelali, nous sommes très heureux de terminer cette soirée avec vous. La soirée continue sur Beurre FM, vous le savez. C'est maintenant que vous pouvez top 01 53 48 3000. Kim, tu attends un peu. 01 53 48 3000. L'imam donnera un numéro.
Il y a un huissier qui est. Il y a un surveillant qui s'appelle, comment il s'appelle ton huissier?
Maître Boili.
Je triche alors que je ne vois pas les numéros.
Maître Boili. L'imam te donnera un numéro au hasard. Un numéro innocent.
Inch'Allah.
Les programmes continuent. Je rappelle que Time Sport vous donne rendez-vous à partir de 22h avec autour de Bilal Neyman, beaucoup, une grande équipe. Et Vanessa prendra la relève à partir de 23h. Imam Abdelali, un numéro entre 1 et 6.
3, Masha'Allah. L'Witr. Inna Allah witr, on yuhibbu l'Witr. Bismillah. Qui est le troisième?
Qui est là?
Wa alaykoum salam. Voilà.
Comment tu t'appelles?
C'est la baraka de l'imam, là, vous avez gagné.
J'ai gagné, j'ai déjà appelé l'an dernier.
Ah bah si t'as appelé l'an dernier.
C'est bien.
Ah, c'est bien.
Il a le droit d'appeler encore cette année.
Bah, c'est la fidélité.
Bon. Voilà, il est fidèle.
T'as un an de plus.
Il a gagné un gros cadeau.
Alors, Yanis, tu vas gagner un coffret de parfum que tu vas pouvoir offrir à ta maman. Est-ce que tu as une dédicace à faire? Dis-nous.
Oui, je souhaite à toute ma famille et à tous les musulmans un bon Ramadan.
Masha'Allah alik. Allahumma barik. La hafdaka ouldi. Qu'Allah il te protège, il te préserve, il te fasse grandir dans le bonheur, la santé et la foi, Inch'Allah. Dis amin.
Inch'Allah.
Et qu'Allah il te protège tes parents et toute ta famille. Il y a quelqu'un derrière toi là ou t'es tout seul?
Quoi?
Oui, il y a ses parents.
Ah bah voilà, bah, dis-toi un petit bonjour les parents.
Il habite sur un yacht tout seul.
Voilà, non mais c'est parce que je me disais quand même, il faut qu'il y ait quelqu'un de majeur. Allahumma barik. Wa alaykoum salam, marhaban akhti.
Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir?
De la charba.
Oui.
Et des feuilles de briques et des galettes de pommes de terre.
Waouh.
Superbe.
Alors très important, vous restez en ligne parce qu'on va prendre votre numéro de téléphone.
Et votre adresse pour venir manger ce soir chez vous.
Et pour vous envoyer votre coffret de parfum qui vous a offert par Maïssa Parfum d'une valeur de 250 €. Donc ça, il faudra bien nous donner toutes vos coordonnées.
Félicitations. Sahatkoum.
Merci.
Merci. Bon Ramadan.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.